France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Hervé Villard qui publie « D'Hullière dans les arbres », un très beau récit où il revient sur sa vie après le triomphe de Capri, c'est fini, l'Amérique du Sud, les nouveaux succès, nous, revient, méditerranéenne, des portraits savoureux de Mitterrand à Ludmila Tcherina. Hervé Villard, chanteur à succès et désormais écrivain, à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, Serge Laïc nous parlera du grand chef d'orchestre anglais Arthur Greenslade. Mais ce samedi, vous savez, est aussi celui de la réouverture des grands et petits magasin.
Les grands magasins, c'est épatant. On peut dire maintenant que le vrai Paris, ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries. Dans les magasins, il y a des pantins, des robes en satin. Dans les magasins, on trouve du fusain et du rouge raisin.
De la
mercerie,
de la gagnerie, de la papeterie, de la parfumerie, des paniers, joujoux, bref, on y vend de tout.
Et oui, vous l'avez entendu, magasin de première ou de seconde nécessité où tout le monde va se précipiter, mais attention quand même aux gestes barrières. Quoi qu'en disent les trois grands fantaisistes rassemblés dans cette chanson, ça faisait partie de la revue Tout Paris de 1928, paroles d'Albert Villemetz, et vous avez entendu Bach et Laverne avec la fantaisiste Nina Miral, j'adore ce nom. Voilà, vous avez plébiscité, je dois dire, la semaine dernière, les chœurs de l'Armée Rouge. J'ai vu qu'il y avait une nostalgie de l'URSS parmi les auditeurs de France Musique. Alors je vous ai ressorti cet orchestre de balalaïka de l'URSS, l'orchestre Ossipov, dans un enregistrement historique de cette belle composition intitulée « Au clair de lune ».
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité. Il m'avait fait l'amitié d'être là sur scène pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Il faut dire que c'est un amoureux de la chanson française. Il la connaît bien, même s'il est lui-même le compositeur, l'auteur, l'interprète surtout d'immenses chansons à succès. Et puis c'est aussi un écrivain qui se révèle plus que jamais dans son dernier livre, Du lierre dans les arbres, qui vient de paraître chez Fayard. Je reçois ce matin Hervé Villard.
D'un point qui luit tout en haut d'une ville, cette lampe allumée sous un toit dans la nuit, est-ce un amour qui naît la lecture tranquille, ou bien l'enfant qui dort et que veille la pluie, est-ce un amour ancien vieilli par l'habitude, un collégien qui fait et refait ses devoirs. Une fille des rues vendue aux servitudes, avec son inconnu dragué sur un trottoir. Signal d'un point qui luit tout en haut d'une ville, est-ce un prêtre à genoux qui prie pour un mourant, l'épouse d'un marin qui aux lueurs fragiles relie des mots d'amour venus des océans. Est-ce la vie qui naît ou la vie en déroute, ce point qui luit tout seul à travers le brouillard, la nuit avec la pluie lui font d'étranges voûtes, est-ce quelqu'un qui vit ou qui meurt quelque part. D'un point qui luit tout en haut d'une ville, un garçon de 20 ans beau comme un ciel d'été apprend sur sa guitare une chanson docile qu'il chantera demain aux gens du monde entier, qu'il chantera demain aux gens du monde entier.
Bonjour Hervé Villard.
Bonjour Benoît.
J'aime beaucoup cette chanson Signal que vous avez enregistrée en 2004 dans un album où vous rendiez hommage à des auteurs
à
de
des
la
poètes,
chanson française, à des poètes.
À Bernard Dimet, à Maurice Fanon, voilà. Et Tendre après Vert.
Et à Louis Amad qui a écrit cette chanson. Il faut le rappeler parce qu'on parle beaucoup de la police en ce moment.
Oui, il était préfet de Paris.
Il était préfet de police
de police
Paris.
De Paris, oui. Plein de police. Il roulait les airs comme ça, il venait du... je ne sais plus du Tard, dans tous les cas, il était du Sud-Ouest. Cet homme, il a écrit beaucoup de L'importance et la rose pour Bécaud, il a écrit quelques chansons.
Voilà, comme qu'on
très
pouvait,
pour
on pouvait être préfet de police et poète, c'est quand même
oui,
extraordinaire.
On peut même être président de la République, si l'on le désire.
Et poète, voilà. En tout cas, ce disque d'ailleurs, que vous avez enregistré en 2004, on pourrait dire il correspond, il referme un petit peu ce recueil de souvenirs, ce livre que vous venez d'écrire, Du lierre dans les arbres,
oui.
Qui correspond à une période de votre vie qui va d'après les premiers succès jusque à cette année à peu près, ce début du 21e siècle.
Hein. Ben, c'est le troisième, c'est une trilogie que m'avait demandé Claude Durand chez Fayard. Et donc j'ai mis 7 ans pour faire celui-là parce que je ne suis pas écrivain.
Ah oui, mais c'est très
je
réussi.
Je me réfère parfois à Chateaubriand et à tant d'autres parce que pour parler de la campagne, il n'y a rien de mieux.
Oui, vous vous promenez même sur la plage avec Marguerite Duras
oui,
dans un chapitre
ça,
du
c'est,
livre.
Et Borges aussi, mais ça c'est un jeu. Non, ce sont des peintures, c'est une réflexion, c'était sur la comédie humaine. Moi j'aimais, je suis un spectateur de la vie, je suis un je décortique tout, je regarde, je je m'avance pas trop devant, mais j'aime bien observer les gens. Il m'arrive souvent d'être, quand on les terrasses de nos chers cafés parisiens sont ouverts, de m'installer comme ça et de regarder les passants. J'adore
Et vous êtes un vrai fin observateur, et chacun des chapitres est vraiment un petit tableau très joliment ciselé d'un moment de la vie ou de votre vie.
Voilà, c'est ce que j'aime dans Proust. sans prétention, bien sûr.
Voilà, donc ça s'appelle Du lierre dans les arbres, et oui, ça couvre à peu près cette période dans laquelle vous revenez, si on peut dire, d'Amérique du Sud, où vous avez passé pas mal beaucoup de temps, pendant sept ans. Vous revenez en France, vous renouez avec le succès, avec d'immenses succès, qu'on entendra tout à l'heure, comme Nous, comme Revient.
Avec un Italien qui est Toto Cutugno. Que j'ai rencontré, si vous voulez, je vous raconte ça. J'étais avec Tino Rossi au bar du Fouquet's, qui adorait me raconter ses exploits et sa vie et son histoire, et qui me disait toujours « Qui a eu du succès en aura ?» Alors j'ai dit « Merci, que Dieu vous entende, Tino !» Et là, de l'autre côté de la vitre, il y avait un homme qui me faisait des grands signes comme ça. Je suis là. Donc je vais le voir, et avec André Bézu, qui est un copain, et on voit ce cher brun. Il m'a dit, je suis Toto Cutugno. Pourquoi tu chantes Modugno, Baptiste, et pas moi? Alors je lui ai dit, mais moi j'ai écrit L'été indien et en chantant pour Sardou. Bon, très bien, donnez-moi votre carte. J'ai pris la carte. Puis un jour je l'ai appelé, je suis resté un mois et demi à Milan. Cet homme vivait chez sa mère, faisait du piano bar en bas de chez lui, et avait deux maîtresses, une au fond de Milan et l'autre presque en face chez lui. Et nous avons pianoté pendant un mois et demi. Voilà. Nous avons fait Nous, Revient.
Et ça a été le début d'une série extraordinaire de succès.
Une belle rencontre, c'est un homme
sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais on va quand même faire un petit retour sur les deux volumes d'avant de votre, on peut dire, autobiographie, sur vos jeunes années, sur vos premiers amours musicaux, en tout cas, avec par exemple Charles Trenet.
Ah.
Je suis tombé du ciel, destin providentiel, car sur la terre tout est flamand, surtout quand vient le printemps et qu'on voit les étangs pleins de lumière. Quand un oiseau se pose sur un roseau morose, quand un nuage d'orage semble vous dire, ami, si j'éclate en voyage, tombé du ciel, la pluie qui tombe du ciel, c'est le rythme éternel, tombé du ciel. Un amour se pose sur un destin morose, tout change, et cette rose, c'est notre amour ami que nos larmes arrosent. Tombé du ciel, l'amour qui tombe du ciel, c'est le rythme éternel. Tombé du ciel, tombé du ciel. du ciel.
J'ai d'abord eu envie de chanter, mais on ne chante pas comme ça. Il faut apprendre à chanter. Alors, j'ai voulu m'incruster un peu dans le métier, si vous préférez. Alors, je me suis mis à consacrer à vendre des disques.
Mais c'est pourtant pas un très bon point de départ de vendre des disques, parce qu'à ce moment-là, on est en contact avec ceux qui les achètent et oui. pas avec ceux qui les font.
Ah si, parce que moi, je vendais des disques sur les Champs-Élysées et je voyais quand même ceux qui les faisaient.
Ah bon, ils vous ont guidé un peu ?
C'est-à-dire que... Guidé, non, mais enfin, j'étais un peu dans l'ambiance, voyez, je voyais les gens du métier de la chanson, et pour moi, c'était fantastique.
Comme à ce moment-là, vous n'aviez pas de répertoire à vous, quelles chansons chantiez-vous des autres ?
Eh bien, vous savez, je chantais les chansons d'Adamo, et vous voyez, elle n'était pas connue à l'époque, il n'était pas connu du tout.
Mais Adamo a ouvert pour vous une voie dans la chanson tendre, il a déblayé le terrain, en quelque sorte.
Pas spécialement, parce qu'avant de chanter celle d'Adamo, qui avait fait qu'un disque à l'époque, j'ai chanté celle de Gilbert Bécaud. Pour moi, c'est Gilbert Bécaud.
Voilà, et ça c'est Hervé ouais. Villard en 1966.
Quelle voix fraîche.
Le jeune et charmant Hervé Villard, oui. interviewé dans Rendez-vous à 5h par Sophie Dumoulin. Je ne sais pas si vous vous rappelez
cette émission. Oui, je me souviens très bien d'elle, de cette dame charmante. On remarque que j'ai tellement peur de mal m'exprimer, tellement peur de pas parler français bien. Je me disais, oh là là, faut faire attention, tu es à la radio. C'était mes premières interviews.
C'était exactement vos premières interviews. Revenons un instant sur Traîner, juste avant.
Pour moi, c'est le maître.
C'est le maître.
Moi, c'est le maître absolu. Oui. Il y a Traîner, puis il y a les autres derrière. Voilà. Vous pouvez tous les citer. On est tous derrière. Moi, je pense que si je n'avais pas écouté Charles Traîner, j'aurais été incapable d'écrire des chansons.
Vous êtes allé chez lui un jour ?
Oui, je suis allé dans son jardin. Il voulait me présenter sa mère. Enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait me présenter. Il était en train d'arroser des fleurs en plastique. Et alors, je crois qu'il voulait surtout voir si j'étais complètement un imbécile ou pas. Donc, il est là. Et je lui ai fait remarquer que ces fleurs-là pouvaient changer de couleur au soleil, parce qu'il faisait très beau ce jour-là. Donc à partir de ce moment-là, on a sympathisé. Enfin, je crois qu'il avait tendance à nous prendre, nous les jeunes, pour un peu des abrutis, quoi, les yéyés. Mais moi, je n'étais pas un yéyé.
Vous n'étiez pas yéyé, voilà. Vous étiez à part, mais vous veniez donc de connaître l'immense succès de Caprice est fini. Au moment où vous avez enregistré cette interview qu'on vient d'entendre, vous aviez été donc vendeur de disques. Alors, on ne va pas revenir sur votre enfance qu'on connaît bien, dont on avait déjà parlé, celle d'un roman du 19e siècle.
Oui, c'est un roman. La preuve, c'est qu'il y a la suite, la dernière partie.
Mais je voudrais qu'on s'arrête quand même, aujourd'hui spécialement, à ce personnage, donc, après ces années très difficiles de votre enfance et de votre adolescence, qui a, on peut dire, changé votre vie. Oui. Vous étiez dans la cour des Invalides il y a quelques jours pour la cérémonie qui lui était consacrée. Parmi ses plus proches, c'était donc le Daniel Cordier.
Oui, tout à fait. Vous savez, moi, Daniel, pour moi, c'était un passeur d'art. L'homme de la résistance, je l'ai entendu parler, je l'ai vu, mais il était déjà en train d'écrire Alias Caracalla, tout ça, il a écrit ça pendant des années, dans un fauteuil avec de la jolie moire dessus. Bon, enfin, tout ça, c'était un homme de goût, c'était un parfait, on va dire un viscontien un peu, vous voyez, c'était un...
Rappelez-nous votre rencontre.
Alors, Daniel Cordier, si vous voulez, je vais vous la répéter, j'étais... À l'époque, j'étais en cavale d'orphelinat et devant la gare Saint-Lazare, il y avait l'ancienne gare qui tombait et la nouvelle qui s'élevait comme ça. Et il y avait un peintre qui s'appelait Dado
qui était là, célèbre,
magnifique peintre, qui m'a vu et qui a vu que ce qui m'intéressait, c'est pas sa peinture, mais c'était plutôt son sandwich sur le bord de la table. Donc il a pris le sandwich, il l'a partagé, et je vais vous faire très vite. Il m'a dit, écoute, tu laves ton col de chemise et tu viens samedi, je donne un vernissage dans les beaux quartiers. J'y suis allé, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une autre vie, peut-être un espoir quelque part. Il y avait des femmes qui sentaient bon, cette peinture m'était étrangère naturellement, mais j'ai bouffé tous les petits fours pendant 2 heures. Et à 9 heures, j'étais encore là, tout le monde était naturellement parti, et Cordier s'avance et dit à Iris Claire, qui était une grande galeriste d'alors, il lui dit, mais qui est ce jeune homme? Et Dado répond, c'est mon petit admirateur. Et alors, pour la première fois, j'ai senti une espèce de sécurité chez ces gens-là, parce que je trouvais qu'il y avait des étoffes, des tissus, et je vous la fais assez courte, mais donc là, je me suis dit, il faut que je dise la vérité. J'ai dit, je suis évadé d'orphelinat. Iris Claire, qui était la compagne de Daniel, a dit « Viens déjeuner demain ». Je suis allé déjeuner avec eux le lendemain. Et à la fin du repas, Daniel Cortier a dit « Écoute, retourne en orphelinat et on va t'en sortir ».
Et on peut dire qu'il a vraiment changé le cours de votre vie.
Ah, alors, il a complètement bouleversé ma vie. Ouais. Moi, j'étais promu, on va dire, à la délinquance directe. Ouais. Directe. Je savais très bien, je sautais sur les toits comme un chimpanzé.
Mais vous aviez déjà cette passion de la chanson, cette envie de devenir chanteur. Et on peut dire aussi que Daniel Cordier vous a, à sa façon, même s'il avait peut-être son point de vue qui n'était pas toujours le même que vous, mais il vous a encouragé et poussé dans cette voie.
Il m'a surtout poussé à, dans l'éducation, à apprendre à manger proprement, avec des couverts, à m'exprimer, à lire aussi, à beaucoup lire. Et puis, il m'a initié aussi à la peinture. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir été à l'inauguration du Palais Garnier sur la toile de Charles Gall au plafond, là. Hein, je me rappelle de tout ça. Il m'a emmené partout pour voir. Et puis, il m'a dirigé. Puis, il a fait de moi un disquaire formidable. Voilà. Les Champs-Élysées, ce que j'ai raconté.
Donc voilà, c'est aussi une marche vers la chanson.
Et là, j'avais quand même comme client Callas, Karajan, monsieur, c'était pas n'importe quoi. Miles Davis, j'étais quand même le vendeur de disques de Dalida.
Mais alors, dernier point dans ce retour et cet hommage à Daniel Cordier, il est directement lié à Caprice et Fini.
Il est lié, oui. C'est-à-dire que j'ai l'air de parler comme un livre, comme ça, mais enfin, on va voir si les gens veulent lire celui-là. Mais en tous les cas, je vais vous dire pourquoi il est lié. Parce que, à l'époque, il y avait beaucoup dans la chanson. Il suffisait que vous soyez jeune, les maisons disent, vous entendre chanter Wap to Wap, le Madison Twist, Ya Ya Ya, déjà les connus là. Et moi, je détestais ça. Je n'aimais pas ça du tout. J'aimais Mouloudji, j'aimais les chansons romantiques,
Adamo.
J'aimais Adamo, naturellement. J'aimais toutes ces chansons-là. Et quand je me suis retrouvé, dans cette maison de disques avec un contrat, je dis, moi je veux pas chanter ça. Et Cordier m'a dit, mais attends, pour qui tu te prends? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Sois déjà très heureux, t'as signé un contrat magnifique. Maintenant, il faut que tu y arrives. Et alors, je lui ai dit, non, je ne chanterai pas ça. Et j'ai écrit Caprice est fini pour lui montrer, tu es un parfait autodidacte, hein, pour lui montrer que j'étais aussi capable d'écrire des chansons. Mais j'étais nourri aussi par Becco, par les autres. Hein. Et quand j'ai écrit Caprice est fini, évidemment, je me prenais pour Jacques Brel.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois, je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini, je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Voilà, là, c'est vraiment le point culminant, c'est la voix qui s'abandonne un peu.
Je ne m'expliquerai jamais. pourquoi cette chanson est allée jusqu'en Australie, en français, hein, jusqu'au Chili, enfin, a fait pratiquement le tour du monde. J'ai fait le tour du monde 4 fois grâce à cette chanson.
Mais ce qui est très, très beau, c'est ce côté à la fois très dépouillé, qu'on a souvent dans vos grands succès, et en même temps, c'est du dépouillé très bien fait avec toutes ces cordes, ces arrangements de Jacques Dangean.
Oui,
hein.
Jacques Dangean était un jazzman, et qui ne gagnait pas sa vie en faisant du jazz, comme la plupart de mes clients chez Symphonia. Et donc, il a fait, cet été-là, il faisait de la variété, et il a donc enregistré Aline le même été.
Voilà, une chanson qu'on a souvent rapprochée de Capri, parce que c'est
c'était
un
le
peu
même été,
même genre
c'était
de
les mêmes
slow.
Choses, et il y a le soleil et la mer de François de Gelt.
Aussi, ah oui,
cet
qu'on a
été-là,
oublié.
Nous avons été 3 à faire... C'était le retour du slow, ça changeait des wap-dou-wap, vous comprenez, voilà.
Et alors, donc, il y a eu un travail avec Jacques Dangean au studio,
oui, Jacques,
j'imagine.
Jacques, mais Jacques, il m'a... si vous le voulez, je vous la raconte, l'anecdote. Je connaissais Kenny Clarke.
Ah oui.
Parce que c'était un client du magasin. Et moi, je connaissais
aussi,
plein.
Ah,
oui, il jouait
derrière. À Paris,
il jouait, derrière, dans des boîtes de Blue Note, derrière chez moi. Et le soir, j'y allais. Je leur portais quelques disques de Pacheco et tout ça. Mais là, je connaissais, et donc je connaissais pratiquement la plupart de tous ces musiciens qui étaient dans le studio le jour de Capri, c'est fini. Et Jacques me dit, à un moment, Hervé, voilà, c'est simple, ou tu vas dans la cabine directe et tu chantes en direct avec l'orchestre, ou on enregistre l'orchestre à bord et tu vas chanter. Et je me suis dit, mais je vous jure, c'est vrai, je me suis dit, mais tous ces mecs qui sont des musiciens et tout, que si je chante pas avec eux, ils vont me prendre pour un ringard. Et donc je suis allé chanter en direct, nous avons fait 2 prises, basta, et je pense qu'il y a ça aussi, cette espèce de force que j'y ai trouvée pour pouvoir d'être à la hauteur de ces immenses musiciens, c'est sûr.
Alors, on a très souvent rapproché, pour toutes ces raisons, et notamment les arrangements Capri et Aline, un mot de Christophe qui nous a quittés cette année.
Mon Chris, c'était un oiseau de nuit, c'était un joueur de poker, un amoureux des jukebox, amoureux de l'Italie et des femmes, essentiellement italiennes ou brunes. Non, c'est un...
On le voit dans votre livre, qui joue au piano à 4 mains avec Véronique Sanson.
C'était un bluesman. Il n'était pas très satisfait d'avoir chanté un peu de variette. C'est comme Bachung, ça. Je les ai connus tous les deux. Nous sommes dans la même promotion. Quand un jeune, il chantait des chansons mauves, quoi. Je veux dire des chansons de rose bonbon. Et un jour, il m'a dit, écoute, moi, je ne sais pas chanter ça. Je te laisse la place.
Voilà, le cher Christophe, en tout cas, j'espérais le recevoir cette année dans l'émission. Et puis, les choses sont allées trop vite. Alors, Capri, succès mondial, on l'a dit, et un succès énorme. Ça entraîne forcément des quantités de détournements et de parodies.
Et l'emmerde.
Alors vous la connaissiez celle-ci, cette version punkoïde.
C'est n'importe quoi, on dirait qu'il va vomir. Ça n'a pas d'intérêt.
Vous,
enfin,
vous les collectionnez les...
Si musicalement c'était encore intéressant, je vous dirais, bon allez, là mais c'est même pas du metal, quoi, c'est de la merde. Quoi.
Mais vous les collectionnez les différentes versions de Capri dans le monde
j'en
entier.
J'en ai en hébreu, une belle chanson, en arabe aussi elle existe. En arabe c'est
vous avez eu beaucoup de succès aussi d'ailleurs, là c'est pas l'arabe mais c'est en Turquie j'ai vu.
Oui j'ai chanté pas mal en Turquie.
Et puis même j'ai vu une version Caravelli aussi, alors il y a une version musique de Charles,
Paul Mauriat, Franck Pourcel, tous ces hommes avaient des grands orchestres à l'époque et mettaient 1000 violons dans leurs orchestrations et faisaient le tour du monde avec ça.
Alors pour en finir avec ces années qui on peut dire précèdent votre 3e volume de souvenirs, Hervé Villa, je voudrais encore revenir sur deux personnages parce que on ne sait pas ce que c'était aujourd'hui. Je crois que ça pense que ça n'existe plus. Mais quand on était une jeune vedette de la chanson, on avait un parrain et une marraine.
Ah oui.
Ça se décidait comment, c'était quoi, c'était vous qui les choisissiez.
C'est la SACEM qui décidait, mais c'est vous qui donniez les noms.
Ah oui, c'est alors ça, c'était disait, par la SACEM.
Et on vous disait, voilà, maintenant, parce que quand on faisait commencer à faire un million de disques, vous voyez, la SACEM s'intéressait beaucoup à vous. Parce que ça, bon, mais toujours d'ailleurs, mais la SACEM est un bel organisme, fort heureusement pour nous. Mais je veux dire, voilà, donc moi j'ai cité Dalida que je connaissais, ouais. Et puis j'ai cité Maurice Chevalier parce que j'adorais cet homme.
Ouais.
J'adorais le musical. Moi, je l'avais vu quelques fois, mais j'adorais. Je me disais, et pourquoi pas, j'ai dit, et pourquoi pas Maurice Chevalier. Et il s'est pointé, il est venu.
Il a été gentil.
Il aimait
quoi.
Bien la jeunesse, il aimait bien ce contact, ça le rassurait.
Ouais.
Cet homme était un homme en scène absolument grand, un immense artiste. Et Dalida, c'était plutôt parce que. J'avais reçu un mot, une carte postale lorsque j'étais en orphelinat d'elle, donc c'est un amour très particulier.
Voilà. Vous évoquez d'ailleurs dans votre livre vos petits conciliabules tous les deux au Vepler, la grande brasserie de la place Clichy.
Jusqu'à la fin de sa vie, nous avons eu de temps en temps, mais Orlando n'était pas la personne, était là. Nous voyions tous les deux.
Et vous étiez caché du reste du public, des conservateurs.
Mais Dalida a été surtout émerveillée et très intéressée et curieuse. Quand j'ai retrouvé ma mère, ça l'avait bouleversée que j'ai retrouvé ma mère.
Ouais.
Elle disait, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ma petite mère était une petite femme des faubourgs, une espèce de petite frêle, vous voyez, mais moins forte et moins de caractère. Donc elle avait chanté dans les rues, ma chère maman.
Je vais vous
une petite anecdote qui est dans cette chanson. Quand elles se sont trouvées à la fin de la vie avec Lucienne Boyer, dans le quartier des faubourgs, où je l'avais replacée, elle disait, ma petite blanche mère Villard, elle disait, ouais, tu m'en souviens quand j'étais à la Croix de Chaveau. Et je vais te dire une chose, Lucienne, moi aussi j'aurais réussi si j'avais couché avec l'accordéoniste.
Et la Sainte Totoche?
Ah, la Sainte Totoche, c'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais dans le bon sens.
Je ne sais pas comme c'est curieux, comment moi j'ai fait pour te plaire. Je ne connais rien des bonnes manières, alors que toi, j'aime monsieur. Tu m'as toujours intimidée, et dans ma tête tout se brouille. Mes jambes tremblent et je m'embrouille. Rien que d'oser te demander pourquoi ça fait rire tes amis lorsque tu m'appelles Totoche. Moi j'aime ce nom qui nous rapproche puisque c'est toi qui l'as choisi. Il n'est pas dans le calendrier, mais tu m'as dit qu'un jour ça fête. On la ferait en tête à tête. Et j'attends depuis des années. Mais quand sais-tu qu'on fêtera la Saint-Totoche? Mais quand sais-tu qu'on fêtera la Saint-Totoche? Pendant que tu vas travailler la nuit avec ta secrétaire, moi je repasse tes affaires et je fais briller tes souliers. Le matin je passe l'aspirateur, j'invente des plats, je fais des crèmes, je mets le couvert que tu aimes. Oui mais toi tu déjeunes ailleurs. Le dimanche et les jours fériés, tu cherches au loin la solitude, disant que cette vieille habitude est nécessaire à ta santé. Mais pour le jour où tu pourras penser que je suis ta compagne, j'ai acheté du vrai champagne. celui que tu bois toujours sans moi. Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Otoche? Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Otoche? Lorsque tu seras décidé, tu verras, je me ferai belle. Il y a si longtemps, tu te rappelles que tu ne m'as pas regardé. Je voudrais tant pour ce beau jour que toi aussi tu te souviennes et qu'une fois encore tu reviennes me parler simplement d'amour. Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Otoche? Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Otoche?
Chanson douce et cruelle, mine de rien.
Qui a signé cette chanson?
Non, évidemment.
Charles Aznavour.
C'est Charles Aznavour qui l'a écrite pour votre amie Dalida, qu'on voulait évoquer ce matin.
C'est quand je suis allé à Bobino que je lui portais mon premier disque, elle chantait ça.
Voilà.
Voilà.
Et parmi les copains de la butte Montmartre, il y avait aussi, bien sûr, Bernard Dimet.
Oh, bah, le poète.
Oui.
Montmartrois.
La bande à Dimet. Vous avez des bandes dans votre vie, d'ailleurs, dans votre livre, parfois de voyous aussi, qui vous accompagnent.
Non, vous savez, dans ce métier, les truands aiment beaucoup, aiment toujours, d'ailleurs, fréquentent toujours beaucoup les chanteurs. Ça les fascine. Le métier que nous faisons fascine comme ça. Fascine aussi les écrivains. J'ai remarqué que beaucoup les écrivains, quand j'ai fait signer à travers la France mes livres, comme ça, je vois, je rencontre des écrivains illustres, n'est-ce pas? D'Ormesson adorait, je me sortais des chansons, des titres de chansons que moi j'avais oubliés. Ça, c'était magnifique.
Voilà, en tout cas.
Mais les truands, là, c'est. Oui, mais
ils sont assez présents, dans du lierre, dans les arbres.
Ils avaient plutôt la frime de se promener avec nous, vous voyez, c'était plutôt comme ça.
Des voyous, des dealers,
dans la nuit. Ah oui, de toute façon, c'est à moins de vivre enfermé bourgeois, très bourgeoisement, avec une femme qui vous enferme. Parce qu'il y a quelques chanteurs qui sont enfermés et qui sont retenus à la maison, n'est-ce pas? Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes lâché dans la faune, comme ça, évidemment, vous rencontrez, vous tombez sur le pire et le meilleur.
Voilà. Alors, en tout cas, donc, Hervé Villard, vous êtes, au bout d'un moment, parti en Amérique du Sud, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, parce que vous aviez envie de changer d'air.
Puis j'ai eu un drame, donc, que je n'ai pas besoin de dire ici. Je suis parti en Amérique latine. J'ai rencontré des Guy Lux et des Drucker brésiliens, argentins,
ça a très bien marché.
Mexicains. J'étais devenu presque un chanteur national dans certains pays, comme le Mexique ou
l'Argentine. Vous connaissiez l'espagnol avant? Vous l'aviez
Non, mais dès que j'ai ouvert, j'ai chanté en espagnol tout de suite, moi. Dans les langues latines, parce que j'étais pas doué en anglais, n'est-ce pas?
Parce qu'à l'époque, quand on avait un grand succès dans la chanson française, on déclinait dans divers pays des enregistrements.
Moi, j'ai rien décliné du tout. J'étais très content. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais très content de pouvoir aller à Rio et de connaître le monde et d'aller jusqu'à Manille chanter. Au Japon, tout ça, ça me fascinait de pouvoir partir.
Enfin, le Mexique et l'Argentine ont été les deux pays les plus importants.
Donc, d'autres préféraient Los Angeles. Moi, ça me plaisait pas du tout, Los Angeles. Je trouvais que ça sentait le yaourt. Il y avait un côté comme ça, un peu sous plastique, un peu que j'aimais pas. J'aime pas cette ville. Là, je trouve elle est très moche, elle est très étendue. On s'y ennuie. C'est une ville d'ennui. Alors que le Mexique est un des plus beaux pays au monde. Enfin, tous les pays sont beaux, naturellement. Et puis l'Argentine, il y a une âme, j'allais dire, une âme intelligente dans ce peuple qui se relève à chaque fois, qui tombe. Regardez là l'histoire de Maradona. Ouais. Le peuple, sont des machos, mais ce sont des machos d'abord parce qu'ils considèrent leur pays comme une femme. Vous connaissez l'histoire du tango? Je peux vous la raconter. L'histoire du tango, elle naît à Buenos Aires, pas dans la Boca, elle naît dans les cambrousses, dans les campagnes. Et le dimanche, mais elle est toujours là. Le dimanche, vous avez des balles au fond. Et vous avez les mamans qui sont installées sur des sièges siège comme ça, comme dans des parquets autrefois, des balles quoi. Et là, vous avez des mères de famille qui font danser le petit, des grands-mères même. Et il y a d'abord on danse avec le père, ouais, qui est rude. Ouais. Ensuite, on danse avec la grand-mère. Et on lui dit quand il est habile, quand il a trouvé l'habilité, l'agilité, l'élégance du macho, ouais, on lui dit peut-être que tu auras le plaisir un jour de danser avec ta mère. On est loin du... Et c'est ça le tango, c'est de ça, l'agilité et la fierté, la beauté.
Alors j'aimerais bien qu'on écoute une de vos chansons, un de vos succès espagnols, Hervé Villard, dont le titre en français c'est « Il reviendra le très joli bateau ».
Ça c'est la chanson que j'ai écrite le jour de mes 20 ans, oui. Et c'est un des, vous allez voir la vieille version, mais c'est un de mes plus grands titres en espagnol, « Y volverás en ese barco azul ».
Te vi partir, partir lejos de mí. El sol se fue, te lo llevaste tú. Mi vida está cerca, cerca de ti. ¿A dónde vas? Devuélveme el vivir. Y volverás en ese barco azul. Te esperaré si me lo pides tú. Una oración, yo rezo una oración. En ella pido a Dios, nos dé su petición. Y volverás en ese barco azul. Te esperaré si me lo pides tú. Te esperaré por siempre hasta morir. Pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir. Debe partir, partir lejos de mí. El sol saldrá cuando regreses tú y llorar hasta que estés aquí. Tú sabes bien, sin ti no soy feliz y volverás.
Voilà le premier disque en espagnol d'Hervé Villard. Le son n'est pas terrible, mais c'était un orchestre anglais, voilà.
Oui, j'ai enregistré ça à Londres.
En 66.
En 66, oui, c'est loin. C'est la première chanson que j'ai enregistrée en Amérique latine.
Alors, votre livre du lierre dans les arbres, Hervé Villard, lui, commence à la fin donc de ces années américaines. Ça commence d'ailleurs au Mexique, avec un certain nombre de personnages, dont la grande actrice que vous avez bien connue, Maria Félix.
Oh, Maria, elle m'a offert son pays.
Oui, c'est ça. Ouais.
Elle m'a ouvert les bras dans son pays, dans le quartier San Angel, dans la Zona Rosa, tout ça. Elle m'a offert. Parce que bon, c'est vrai, vous savez, les Mexicains, ils entendaient Capri, c'est Félix, mais c'est tous à pleurer. C'était très désagréable pour moi, parce que dès que je faisais Capri, c'est Félix, c'est... c'était absolument... Et bon, mais elle m'a montré, elle m'a... lâché dans son pays. Il y avait des peintres magnifiques, des musiciens magnifiques, des femmes comme Lola Beltrán, des chanteuses qui racontaient des histoires de machos, de maris qui les avaient laissés tomber, qui étaient au cimetière, et elles insultent sur les tombes. On les appelle les Lloronas. Ouais. Mais c'est un beau pays, c'est un grand pays. Mais bon.
Mais alors vous-même, donc, c'est à la suite d'une aventure un peu tragique, oui, hein, que vous, oui, au début du livre, que, oui, vous décidez finalement de rentrer vraiment en France.
Oui, parce que je voulais fonder une famille. J'étais tombé sur une femme magnifique et nous avions décidé d'avoir un enfant. Et cet enfant n'a pas vu le monde. Donc
elle est morte avant.
Enfin, oui, et donc je suis rentré désespéré et parce que je ne savais plus. J'étais perdu et pas pour la première fois d'ailleurs, mais enfin c'était comme ça. Et donc je suis rentré à Paris et Jacques Revaux qui m'avait gardé dans un tiroir en disant « De toute façon, ça va revenir en France, ça va marcher un jour ». Et nous avons rencontré Cotugno. J'ai écrit voilà. Rêverie.
C'est quand même cette histoire terrible des chanteurs, au fond, à laquelle j'ai envie de dire vous avez d'une certaine façon échappé. C'est comme disait Tino Rossi tout à l'heure, qui a eu du succès en aura. Malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont eu qu'un premier succès, oui, et qui ont couru toute leur vie après le deuxième, le troisième, etc. Vous, c'est arrivé dans cette nouvelle période avec beaucoup de chansons à succès. Mm-hmm. Cette rencontre avec Toto Cotugno,
oui,
et un personnage que vous avez cité tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on en dise un mot parce que j'avais un peu oublié que c'était André Bézu, qui est votre grand copain, qui André, est derrière cette rencontre aussi.
André, c'était mon grand ami, mon grand frère. Nous étions nés le même jour.
C'est lui qui a écrit à la queue leu-leu, hein.
C'est pas lui qui a écrit, mais c'est lui qui a chanté.
Chanté, voilà.
Il était incapable d'écrire. Notre André buvait beaucoup. Il avait des raisons de boire parce qu'il avait été le grand attaché de presse de Paris. Ouais. À Paris. C'est-à-dire qu'il savait quand s'occuper des artistes. Son dernier film dont il s'est occupé, c'est Les Valseuses. Il s'est occupé beaucoup de Louis de Funès, d'Oscar, de La Cage aux Folles, au théâtre, ouais. avec Monsieur Jean-Michel Rouzière au théâtre, et tout ça. C'était des... Bon. Et puis, un jour, il a été dénoncé au fisc, je ne sais pas par qui, mais il s'est retrouvé sur la paille. Donc, on voyait André, je voyais... Moi, j'ai commencé à remonter, revenir en France, et lui, je le voyais perdre l'équilibre. Et nous avons, nous, Garot et moi, l'avons engagé pour être, pour qu'il soit notre détaché de presse.
Ah oui, c'est joli.
On le payait pour ne rien faire. Et par contre, je le voyais marcher sur ses smokings. Mais exactement, il rentrait chez lui, il marchait sur ses smokings. Et il ne pouvait plus ouvrir sa porte. Son service de presse bloquait sa porte. Enfin, c'était un désastre. Et cet homme, et un jour, pour vous fournir, un jour, Guy Lux lui a dit, mais écoute, avec tous les services que tu m'as rendus, il faut pas que tu restes comme ça. Il a fondé la classe pour André Bézu. C'est un grand personnage d'une intelligence, voilà. J'allais dire suprême. Il était un type très intelligent et délicat. C'était un lion, mais c'était un lion battu, quoi. C'est un animal blessé.
Un des personnages très présents dans ce livre, donc qui est là lors de la rencontre avec Coutugno, avec qui donc vous allez sortir une série de tubes extraordinaires. C'est quand même incroyable cette histoire. D'abord, cet Italien qui a eu plus de succès pour ses chansons françaises que pour sa carrière italienne, on peut dire ça.
Mais parce que Toto,
vous êtes toujours en
comme
contact.
Tous les Italiens, ils parlent français déjà.
Ouais, ouais.
Les Italiens
de cette génération du moins.
Ouais,
oui.
Mais même encore aujourd'hui. Ouais. Mais je veux dire, Toto, il aimait la chanson française. Il pouvait vous chanter les chansons de Charles Aznavour, de Gilbert Bécaud. Il connaissait, il avait la culture. Il adorait Montaigne, il adorait tout ça, il adorait la littérature
il
française.
Il adore toujours.
Oui, mais enfin, à l'époque, maintenant, il vit en Russie.
Ah bon?
Oui. Il y a encore un qui est bluffé par le fisc. Vous voyez, le fisc italien, ça plaisante pas. Bon. Alors, bref. Et donc, je veux dire, par là, il était très curieux comme ça. Et donc, moi, je crois que ces chansons qu'il a écrites devant mes yeux, pianotées comme ça devant mes yeux, sont nées parce qu'il aimait ses maîtresses.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand il aimait pas, quand il n'aimait pas d'amour dans machin, qu'il ne partageait pas le lit de quelqu'un, de ses femmes, il était incapable d'écrire.
Voilà. Et mais en tout cas, vous avez...
J'ai fait « Nous, reviens ».
Nous et reviens, ben, simplement. Ces deux-là, je m'arrête d'abord à ces deux-là, parce que c'est un style aussi que vous avez incarné et d'une certaine façon créé, Hervé Villard, cette espèce de slow à la française des années 70, écrite par un Italien. C'est pas rien, parce qu'il y avait aussi ce goût en Italie des chansons bien scandées, comme ça. Et je voudrais qu'on réécoute...
Mais c'était des slow pour frotter, mon ami.
Voilà, c'est ça, ces deux-là, justement.
C'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti. Grandi comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi,
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 pourquoi le silence? Pourquoi,
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 pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? Reviens, elle est là près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi. Pour moi,
Oui, j'ai fait l'amour avec elle. De toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois.
Voilà, deux méga-tubes pour frotter, comme vous avez dit, Hervé Villard, 78 et 80, mais un style, je dis, oui, que vous avez vraiment incarné. Ça me frappait, d'ailleurs, j'ai vu des très jolies vidéos de la télé de l'époque où vous les chantez, et vous êtes charmant, vous chantez très bien, mais c'est pas facile, parce que on peut pas faire beaucoup de gestes sur une chanson lente comme ça.
Je suis surtout très bien habillé pour les mamans.
Oui, c'est vrai.
Non, je veux dire, voilà.
Alors, autant sur une chanson vive, on peut se déhancher, mais là, vous êtes avec, vous jouez avec vos mains, etc. Il y a très peu de choses. C'est dépouillé comme la musique.
De mes mains.
Ouais.
J'ai besoin de mes mains, moi, pour chanter. Ouais. Je chante avec mon cœur et mes mains. Mais je veux dire, voilà, le truc, c'était de saccader comme Capri.
Voilà, c'est ça, c'est le même principe.
C'est qu'il fallait que je saccade. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas chanter lyrique.
Voilà.
Je ne voulais pas tenir trop les notes. J'en suis capable, je l'ai fait aussi pour d'autres chansons. Ouais. Mais je n'aimais pas trop ça, et j'aimais bien... Ça a créé un style, je veux dire.
C'était voilà, c'est vraiment...
La manière de hacher les mots, et de les, j'allais dire, de les respirer et de les transpirer aussi.
Avec, hein, alors, dans Revient, les arrangements d'Hervé Roy,
grand
personnage aussi.
Vous savez, je passais mes nuits sur ses canapés, il écrivait tous ses scores musicaux au crayon. Et il gommait tout, on refaisait tout, on passait des nuits à refaire ces arrangements-là.
Quant à nous, vous m'aviez expliqué que c'est un succès, ça s'est plus vendu que Capri, hein.
En France, oui.
Ah oui, c'est un succès énorme.
Capri, c'est fini dans le monde.
Hein, oui, bien sûr.
C'était insensé, mais en France, nous, c'est 3,5 millions d'albums. C'est colossal.
C'est amusant dans votre livre, parce que vous parlez donc de ce rebond, on peut dire, de votre carrière à la fin des années 70, de votre vie de chanteur. Mmh. Alors, il y a des choses terribles, notamment, ça vous amuse pas tant que ça, c'est les fans.
Non, ça m'a jamais beaucoup amusé. C'est ce côté clo-clo, moi-même, me harcelait un
les
peu.
Les midinettes,
côté qui s'ouvrait les bras avec des lames de rasoir.
Qui grave votre nom avec des lames de rasoir sur son bras.
Le côté
de
la cheville déchirée. Moi, j'aimais pas tout ça. Ça me faisait de la peine. Vous voyez, je veux dire, j'aimais pas trop ça. Autant j'aimais, mais je n'ai jamais été arrogant ni bien au contraire. Je me suis approché plutôt du public. J'aimais bien savoir ce qu'ils pensaient, tout ça. Partageait des moments, mais par contre le côté fan club absolument hystérique de toutes ces filles
qui s'identifient à on ne sait quoi.
Mais vous savez, moi j'ai connu des mères qui nous laissaient leurs filles adolescentes devant la porte en disant je reviendrai la chercher demain à midi.
Ouais, c'est terrible,
donc vous voyez, c'était un monde malsain. Ouais. Donc à partir du moment où vous rentrez là-dedans, et moi j'aimais pas ça. On est plusieurs à qui c'est arrivé, mais pas beaucoup en ont profité, je dois dire, parce que vous sombrez vite là-dedans, hein, c'est terrible.
Ce sont des évocations terribles que vous
quand elles vous écrivent, et puis il y a des fautes d'orthographe innommables. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien écrire quelque chose dans ces livres.
Il y a aussi, d'ailleurs, parfois des coups de griffe. C'est assez amusant, souvent. Par exemple, alors les Carpentiers qui régnaient sur la télé de l'époque, ils vous aimaient pas. Hein.
Non, ils pouvaient pas me lairer.
Pourquoi?
Je peux pas vous le dire parce que c'est une histoire entre Cordier. Ça, c'est une autre histoire lointaine. Enfin, jamais ils ne m'ont engagé. Il y a qu'une dame.
Quasiment interdit de Carpentier.
Non, mais j'étais interdit. Il n'y a qu'une dame qui a dit, écoutez, il est sur le plateau, il vient chanter, parce que je viens de chanter en Amérique latine avec lui, j'ai fait un duo, il vient chanter, c'est Nana Mouskouri, sinon je m'en vais.
Ah oui.
Mais ni mon ami Dalida, ni mes amis Le Luron, les Chazot qui étaient dans la bande des Carpentiers, elles ne Marty ne voulait pas vous entendre supporter. Parler de moi. C'est comme ça que voulez-vous, c'est le destin. C'est très emmerdant, vous savez, quand vous êtes un chanteur assez, vous avez le vent en poupe et vous pouvez pas faire l'émission la plus brillante de l'époque.
Alors, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si vous avez eu ces succès et ce style très personnel à travers ces succès, vous avez assez rapidement, dès 1984, eu le goût d'aller revisiter les chansons des autres. Hein. Oui. Il y a cet album, Les chansons que j'aime, oui. où vous reprenez Ce n'est rien, Julien Clerc et d'autres, comme d'habitude.
La maladie d'amour, je n'aurai pas le temps. Oui.
Voilà, vous avez toujours eu cette envie qui s'est concrétisée vraiment, on peut dire, en 2004 avec Cri du cœur.
Hein. Alors, le premier, c'était surtout Jacques Revaux qui m'avait dit « Il faut que tu refasses un tour du monde ». Alors, j'ai fait un tour du monde en prenant des chansons que j'aime, avec un orchestre qui a coûté une fortune. Mmh. Bon, c'était magnifique, ces orchestrations.
On pouvait faire ça à
Donc
l'époque.
J'étais très flatté, très honoré, n'est-ce pas ? Ouais. Et très fier et très orgueilleux aussi. Mon orgueil en a pris un coup, là, c'était formidable. Je me suis dit, attends, on fait ça pour moi, ces orchestres, c'était magnifique. Et puis, après...
Cri du cœur, en 2004.
Donc là, c'est le dernier album que j'ai fait, hein, vous savez. Je ne l'ai pas enregistré depuis, j'ai eu une petite chansonnette comme ça de temps en temps. Oui, parce que je pense que j'avais fait le tour et que bon, je crois que je ne peux pas me répéter, refaire des faux reviens, des faux capris, des faux nous, des faux machins. Et puis on peut dire que la chanson d'auteur était arrivée, les Souchons, les Cabrel, qui sont arrivés, ont un peu gommé cette chanson des variétés, de variétés.
C'est vrai,
voilà,
il y a eu un changement
parce
de style,
que la chanson d'auteur est revenue.
Michel Jonas, Alain Souchon,
ce qui était tout à fait normal. Et donc moi j'ai senti le vent, donc je me suis dit ben écoute, tu vas préparer tes vieux jours, tu vas reprendre dans les tiroirs des chansons qui sont au fond des tiroirs, qui sentent peut-être un peu la naphtaline aujourd'hui, et que tu vas dénaphtaliser, et je suis allé les exprimer, m'exprimer sur un disque et au théâtre de 10 heures à Paris.
Pas seulement ma voix qui chante, c'est l'autre voix, une foule de voix, voix d'aujourd'hui ou d'autrefois, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, émerveillées, voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf, c'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un moine au mort de froid sur le pavé de la rue de la joie. Et toujours, toujours, quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi. Toujours, toujours, encore vivante, sa pauvre voix tremble pour moi. Si je lisais tout ce qu'il chante, tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, j'en dirais trop et pas assez, et tout ça je veux l'oublier. D'autres voix chantent un vieux refrain, c'est leur souvenir. C'est plus le mien, je n'ai plus qu'un seul cri du cœur. J'aime pas le malheur, j'aime pas le malheur. Et le malheur me le rend bien, mais je le connais, il me fait plus peur. Il dit qu'on est mariés ensemble, même si c'est vrai, je n'en crois rien. Sans pitié, j'écrase mes larmes, je leur fais pas de publicité. Si on tirait le signal d'alarme pour des chagrins particuliers, jamais les trains ne pourraient rouler. Et je regarde le paysage, si par hasard il est trop laid, j'attends qu'il s'en fasse une beauté. Et les douaniers du désespoir peuvent bien éventrer mes bagages, me palper, me questionner. J'ai jamais rien à déclarer. L'amour comme moi part en voyage. Un jour je le rencontrerai. À peine j'aurai vu son visage, tout de suite je le reconnaîtrai.
Cri du cœur, chanson de Jacques Prévert par oui. Hervé Villa. Mmh. Votre dernier album, donc vous le dites en 2004, hein, vous n'avez pas cherché comme Miss Tinguette à rebondir continuellement.
Je
ne
peux pas lever la jambe à ce point-là, c'est pas possible.
Mais par contre, 2004, c'est le moment au fond où vous commencez à écrire, puisque votre premier livre va paraître 2 ans plus tard,
tout
en 2006. Donc le chanteur devient écrivain d'une certaine façon.
C'est un grand mot.
Oui.
Mais enfin. J'aime l'écriture, j'aime la littérature et je pense que ces 3 livres sont écrits.
Voilà,
j'ai au moins écrit, la prétention de dire que c'est pas des livres de ragots, où on raconte ses souvenirs sur une cassette.
D'ailleurs, c'était, ça a très bien marché.
C'est des livres qui sont écrits sur la comédie humaine, sur l'histoire d'un orphelin, je parle de moi à la troisième personne, d'un orphelin à qui on a tendu la main.
Ça, c'est le premier volume, principalement.
Même encore le dernier. Oui, oui. Borges, il m'a tendu la main. Duras m'a tendu la main. Je veux dire, c'est des gens... Et moi, ce qui me fascine, c'est les autres.
Oui. Alors justement, il y a des personnages, c'est assez drôle, dans ce nouveau livre. Par exemple, il y a vos rencontres avec Mitterrand.
Oui.
Quand vous finissez vos nuits...
Avec Bézu.
Vous finissez vos nuits sur la montagne Sainte-Geneviève, oui. Et lui habitant en bas, rue de Bièvre.
Oui, c'est ça. Je le vois sortir de la librairie, je surveille. Et il voulait... Cordier n'aimait pas beaucoup Mitterrand, pour des raisons... On va dire de Bousquet, oui, c'était très...
Bah, il était gaulliste, Cordier. On ne pouvait pas être gaulliste et mitterrandiste.
Sinon, il aurait été ministre de la Culture. Ouais. Jacques Lang n'aurait jamais été ministre de la Culture, parce que Mitterrand lui avait demandé. Et le matin, pendant quelques années, je voyais Mitterrand assez souvent prendre son taxi pour aller, je ne sais où, au bureau du Parti Socialiste, rue de Solferino. Il allait toujours avec un livre sous le bras. Et je lui disais, il était président du Parti Socialiste, il n'était pas président de la République encore. Et je lui disais, moi je chantais de temps en temps pour les fêtes du parti, on se croisait et tout ça. Et là, je le voyais, je lui disais, je vous en prie, monsieur le président, vous êtes plus pressé que moi. Parce qu'il me disait toujours, comment va notre ami Cordier? Je lui disais, très bien, monsieur le président, mais je vous en prie, prenez donc ce taxi devant moi. Voilà. Et puis, je l'ai revu un jour, il a fait exactement le même geste, il a levé son chapeau et il est là, il partait vers la présidence de la République.
Voilà.
Donc je n'ai pas osé dire, je vous en prie, monsieur le président, vous êtes plus pressé que moi.
Vous racontez d'ailleurs, c'est pas toujours drôle, hein, les galas pour des partis politiques divers d'ailleurs.
Oui, les cabotins du Parti communiste, voilà. les grands cabotins des partis qui finalement on leur disait, vous savez, les gens viennent aussi pour nous, si vous engagez des chanteurs, c'est pour remplir la salle. Et parfois ils faisaient, non, je passerai après vous. Et là, la salle était vide, évidemment, parce que les gens, ils venaient, les chanteurs, il leur restait sur 1000 personnes, il en restait 200 convaincus, vous voyez, c'était très étonnant.
Parmi vos nombreux amis, et là, il y a des soirées, des descriptions très croustillantes aussi, il y a votre voisine, Ludmila Tcherina.
Oh, quelle merveille, avec les comtesses.
Rappelons qui était Ludmila Tcherina.
Ludmila Tcherina, c'est la danseuse étoile, c'est les amants de Teruel, c'était la maîtresse aussi d'André, le grand Malraux, et tout ça, mais c'était des...
Et elle habitait au-dessus de chez vous, en dessous?
Non, pas au-dessus de chez moi, elle était dans le quartier, et elle venait tous les matins taper à ma porte, moi qui me couchais très tard et qui me levait très tard. Elle venait, elle frappait à ma porte, elle me racontait ce qu'elle avait vu à la télévision la veille. Avec ses copines qui dansaient, tout ça. Non, mais c'était joli. Elle donnait des soirées, des dîners comme ça chez elle aussi. Et elle disait, bon, ce soir nous faisons soirée bolchevique caviar. J'ai trouvé ça très joli. Et puis, elle jouait beaucoup au bridge aussi. Mais elle était charmante. Et puis, elle était tellement riche, n'est-ce pas? Riche d'argent, riche en culturellement.
Et Germaine Montero, vous ne l'avez pas connue?
Non.
Non.
Et vous l'aimez? Mais j'aurais bien connu, mais là, je suis un petit peu... Non, vous me prenez pour une antiquité.
Ah non,
là.
Elle n'est pas morte il y a si longtemps que
ça.
Non,
oui, mais c'est pas une question de mourir. C'est une question que... C'est un autre temps. Mais j'adore la chanson de Germaine.
La fille de Londres?
Ah oui, ça, c'est... Marc Corlan, c'est absolument formidable.
Un rat est venu dans ma chambre. Il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine il finit, je lui ai souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui paraît-il fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fin loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon shintok ébloui. Et chez Charlie il faisait jour et chaud. Des jouets, des ibelles sur son vieux piano. Chinois dans ma chambre, il a mis le rat à la porte, il a remonté la pendule, il a rempli le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos, alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé, un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité.
Un chef-d'œuvre.
Très belle voix, très belle chanson, Mac Orlan. Merci Hervé Villard de me la faire découvrir parce que je la connaissais pas auparavant. Ah bon. Mais on aurait pu aussi passer Zizi Jeanmaire, Juliette Gréco.
Ah oui, ça, moi, vous savez, je suis un amoureux de la chanson française, mais de la véritable chanson française.
Oui, oui, absolument.
Je suis un amoureux de Bernard Dimet, René Passeur, enfin, vous voyez,
voilà, tous ces amis aussi qu'on retrouve dans votre livre avec d'autres personnages encore. Ici, Bernadette Lafont, oui. Là, Alain Pacadis. Marguerite Duras, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, dans la dernière partie de votre livre, oui. Finalement, après avoir quitté l'Argentine pour revenir en France, d'une certaine façon, vous quittez Paris pour redécouvrir le pays d'une partie de votre enfance.
Oui, parce que je vous ai dit
qui est le Berry.
Oui, voilà. J'avais envie de me reconstruire, parce que vous savez, on ne vend pas 15 millions de disques, on ne fait pas de 100 ou 150 galas par an comme ça, avec sans ce qui se passe, quelque chose, sans que votre vie en prenne un coup. Donc, il y avait quelque chose, on peut aussi sombrer dans le à devenir un peu cinglé ou dans la cam ou dans le c'est, tout est à votre portée, l'alcool, tout ça, les flatteries, d'où le livre, c'est du lire dans les arbres, c'est la symbolique, n'est-ce pas, c'est le fait que vous êtes flatté, trop flatté, vous finissez par croire tout ce qu'on vous dit. Donc moi j'ai voulu m'évader et un jour j'ai racheté le presbytère de mon enfance et je l'ai construit comme un jeu de, je l'ai reconstruit voilà, comme un jeu de Lego.
Ce qui vous rattache à ce merveilleux abbé qui vous comme un enfant, ouvert, les portes de la vie,
voilà qui m'apporte au départ. C'est mon premier sauveur, l'abbé Engrand, n'est-ce pas? Et là, c'était ça l'intérêt. L'intérêt, c'était j'avais reconstruit cette maison et j'espérais y faire venir les amis. Seulement, les amis n'aimaient pas la campagne.
Alors, c'est quelquefois le problème.
Voilà le problème de vous retrouver tout seul avec des chiens et quelques voisins, parfois un petit peu austères et à qui n'ont pas grand-chose à dire. Donc, je me suis réfugié dans les bras d'une mère inventée qui était Simone Plantlin, qui avait lavé les écoles, qui était une lavandière, et je raconte tout, je décris tout ça, c'est-à-dire ce que je n'ai pas pu offrir à ma mère parce qu'elle était trop malheureuse, elle en est morte, et je l'ai offert à cette femme, et je raconte cette histoire cette complicité de cette vieille dame.
C'est très, qui était très
une
beau.
Petite fille.
Et très, oui. Très savoureux aussi, votre description de la campagne, ça vibre, oui. On y est. Hein,
ah c'est oui,
très,
c'est très le Berry, vous savez, voilà. Le Berry, c'est un peu la Toscane française. Ah, oui. C'est le pays de Georges Sand, c'est le pays du Grand Mône. Et donc, il y a aussi des châteaux, il y a encore des comtesses, le baron Colbert a planté la forêt. Voilà, c'est très, très beau, ce pays-là.
Mais finalement, vous êtes redevenu parisien, ce qui nous permet d'être ensemble ce matin.
Mais je suis né à Paris.
C'est vrai que vous êtes né à Paris avant de partir dans le Berry.
Oui.
Et vous êtes revenu à Paris après être retourné dans le Berry.
Paris.
Alors, merci Hervé Villard d'avoir été avec nous pour la sortie de ce livre ce matin. Et on va se quitter, tiens, avec cette chanson qui correspond aussi à l'époque de ce livre, à votre retour en France, donc après l'Amérique du Sud, Rêverie.
Oui, j'ai écrit
un
ça
grand
dans
succès
l'avion.
Encore, hein.
Ah oui, c'était un beau succès. C'est pas le plus grand succès de ma carrière, mais j'ai écrit cette chanson dans l'avion en me disant que si je retourne, enfin, je vais chanter. Qu'est-ce que je vais leur donner? Qu'est-ce que je vais chanter? Et j'ai écrit paroles et musique cette chanson dans l'avion. Je l'ai finie au piano à Paris, rue Véron, dans un petit quartier de Pigalle.
Bon, je suis sûr en tout cas qu'il y aura deux futurs livres. Est-ce qu'il y aura un futur album?
Non. Je pense pas que je vais m'amuser à faire des albums. Non. Je vais continuer à écrire. J'ai
vous chantez quand même de temps en temps.
Ah mais je chante tout le temps. Je chante Prévert. Je chante tout ça dans des petits endroits. Je ne chante plus dans de grandes variétés. Si vous voulez, maintenant je chante ce que vous avez entendu. Voilà. Signal. Prévert. Je chante Annie Sylvestre. Je chante voilà. Ça me fait plaisir de servir la chanson française.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Hervé Villard.
Il n'y a pas de quoi, Benoît. Merci à vous.
Ce n'est qu'un lourd instant de crise qui revient. Un grand amour meurt à Venise, et c'est le mien. Il doit faire très beau dans la vie de celles qui m'ont aimé. Le jour se lève et moi je rêve de m'évader.
Rêverie, c'était Hervé Villard en 1977. Hervé Villard qui était mon invité ce matin à l'occasion de la parution de son nouveau livre « D'Hullières dans les arbres » aux éditions Fayard. We'll be right back. Carrière de Joseph Strauss sous la baguette de Riccardo Muti, qui dirigera d'ailleurs le prochain concert du Nouvel An à Vienne. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous sur France Musique avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et donc, dans les circonstances que tout le monde connaît, vous êtes une nouvelle fois avec nous par téléphone, mais avec une excellente liaison, en tout cas jusqu'à présent. Et oui. Je crois que vous m'avez fait le plaisir de consacrer cette chronique à un grand arrangeur britannique.
Et oui, au brillant arrangeur britannique Arthur Greenslade. Et alors, à l'image de David Whittaker et de quelques autres, eh bien, Greenslade, né en 1923, collaborera avec plusieurs artistes français. Enfant prodige, au piano à 4 ans, eh bien, Greenslade sera chef d'orchestre arrangeur dès les années 50 et fera même quelques incursions dans le rock et la soul music durant les années 60 et 70. Alors, sa réputation est telle qu'en 1965, sur les conseils d'un collègue anglais, eh bien, Claude Dejac, alors directeur artistique de Serge Gainsbourg, propose à ce dernier les services d'Arthur Greenslade afin d'enregistrer à Londres 4 nouvelles chansons comme Qui est in, qui est out, ou un peu plus tard, en 1968, le fameux initial BB.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre. Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux.
Voilà, c'était donc Initial BB, bien sûr, Serge Gainsbourg, avec l'orchestre d'Arthur Greenslade, ce grand arrangeur britannique qui a aussi apporté sa marque à la chanson française, comme nous l'explique Serge et Laïc.
Et oui, alors Arthur Greenslade sera aussi le maître d'œuvre des succès de Gainsbourg, comme Elisa ou encore Je t'aime moi non plus, qu'il chante avec Jane Birkin en 1969. Alors, si Gainsbourg fut le premier artiste français arrangé et dirigé par Greenslade, d'autres traverseront le channel, et pas des moindres, tels Johnny Hallyday ou une certaine Sylvie Vartan, n'est-ce pas Benoît, oh, puisque je vous savais...
Je vous vois venir avec ce chef-d'œuvre de l'arrangement, mais je vous laisse
voilà, vous puisque dire. Je sais que vous adorez la chanson « Comme un garçon », dirigée et arrangée en 1967 par Arthur Greenslade. Alors Jean-Jacques Debout, compositeur de la musique de cette chanson, évoque sa rencontre avec Arthur Greenslade au studio Abbey Road de Londres.
Formidable arrangeur. Hein. Mes plus beaux moments passés à Londres, c'est avec Greenslade. Ah oui, pas un jour de ma vie où il n'y a pas un petit moment où je repense à cette séance et où je repense à lui. D'abord, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle ressemble à aucune autre type de chanson pour l'époque. Je pense que l'arrangement a compté pour beaucoup. je dis pas que la chanson était pas bien, mais s'il y avait pas eu ce son un peu anglais, cet arrangement où il a mis du jazz dedans, parce que si on écoute bien, bon, c'est une mélodie un peu de revue, bien sûr, mais qu'il a traité un peu comme un air de jazz. À un moment, il y avait toutes les trompettes bouchées, font un peu comme les chansons musicales de Broadway, un peu comme Marilyn avait des musiques un peu comme ça des fois. Il mélangeait du basson avec de la guitare électrique. C'était un génie, hein. Puis intelligent. Il avait un côté un peu européen, un peu quand même.
Qui est-ce qui siffle dans la chanson?
Alors c'est Carlos qui se trouvait là. Et moi, parce que je connaissais la mélodie, et à un moment, je dis, ça serait bien qu'on réponde en sifflant. Alors, je dis à Carlos, tu fais ça avec moi.
Cheveux longs, comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu, et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille, mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, j'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains, et dans la bande c'est moi qui commande. Comme un garçon, pourtant je ne suis qu'une fille, mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs.
Et il a bien raison, Jean-Jacques Debout. Pour moi, cet arrangement de sa chanson est un vrai chef-d'œuvre, Serge Elaïque. C'est comme Absolument. Une drogue, je ne me lasse pas de l'écouter.
Alors, d'autres artistes comme Françoise Hardy iront aussi à Londres enregistrer avec ce fameux Arthur Greenslade, qui fut par ailleurs l'auteur de quelques disques instrumentaux. Il interprète ici la célèbre composition d'Irving Berlin, Putting on the Ritz, que chantait Fred Astaire. Putting on the Ritz traduisait s'habiller de façon chic ou encore se mettre sur son 31 pour aller à l'hôtel Ritz.
Putting on the Ritz, bien sûr, Irving Berlin, revu par Arthur Greenslade, dont vous nous parlez ce matin, Serge Elaïque.
Oui, alors Arthur Greenslade, c'est aussi une grande carrière anglo-saxonne. Benoît, il arrange et il accompagne de grands noms de la pop anglaise, collaborant par exemple au premier album du groupe Genesis en 1969, où il collabore aussi avec le crooner Engelbert Humperdinck, dont il sera d'ailleurs quelques années durant le directeur musical, entre autres lors de l'enregistrement de Aquarius de la comédie musicale Her.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derisions, golden living dreams or visions,
mystic crystal revelation,
and the mind's true liberation. Seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawn.
Engelbert Humperdinck dans Aquarius, c'était en 1969 avec l'orchestre d'Arthur Greenslade dont vous nous parlez ce matin, Serge Laïc.
Alors Arthur Greenslade fut aussi très lié à la carrière du poète, du compositeur et chanteur américain Rod McQuaid. Et alors les années 70 le voient directeur musical de Shirley Bassey, chanteuse connue pour ses participations aux bandes originales des films de James Bond comme Goldfinger ou Les Diamants sont éternels. Alors pour sa part, Arthur Greenslade arrange et dirige plusieurs disques de Shirley Bassey, entre autres une parfaite version du tube Can't Take My Eyes Off You, dont nous écouterons un extrait pour finir. Le travail de Greenslade comme directeur musical de Rod McQuaid l'ayant amené en Australie, il s'établit finalement là-bas où il décédera en 2003 à l'âge de 80 ans. Voilà, merci Benoît et à très bientôt.
Et à bientôt Serge, merci pour cette passionnante chronique.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.
Take My Eyes Off You, c'était Shirley Bassey avec les arrangements et la direction d'Arthur Greenslade en 1976. Ainsi s'achevait donc la chronique de notre ami Serge et Laïc. Et c'est terminé pour Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, la technique Stéphane Poitvin et Dali Yaha, réalisation Christine Amado. Et on se retrouvera bien sûr samedi prochain pour un hommage à Nelly Kaplan qui vient de nous quitter.
À réécouter sur francemusique.fr.